France Culture.
Il y a un phénomène au XXe siècle, c'est que la femme est devenue un personnage intéressant parce qu'il est en mutation, je crois. Les hommes sont à peu près pareils à ce qu'ils étaient il y a 100 ans. Aujourd'hui, la femme est en train de travailler, de conquérir une indépendance, un statut d'être humain à part entière. Alors, le sujet féminin est intéressant en lui-même. Alors, à ce titre, on peut dire qu'il y a une littérature féminine parce qu'elle s'attaque à ce problème.
15 mars 1967.
Il est certain que notre siècle a apporté beaucoup à la femme. Il y a la pilule, il y a le frigidaire, il y a les machines automatiques. Mais peut-être ne lui a-t-on pas donné les structures mentales qui lui permettent d'assumer cette nouvelle vie. Et je crois que la lecture peut apporter à la femme ce qui lui manque, c'est-à-dire une restructuration de sa mentalité et en même temps une sorte de sûreté, de confort, et que la lecture peut lui permettre de venir à bout de bien de ses problèmes. Parce que la femme contemporaine, je crois, a énormément de problèmes à résoudre. Certains de ces problèmes pourraient être résolus en les oubliant. Et si la lecture permet cet oubli, eh bien, souhaitons que les femmes lisent beaucoup.
En fait, j'arrive un peu, lise aussi, Sarah aussi, Mélina aussi, mais on n'arrive pas à lire des mots trop longs. Mais moi, je sais un peu lire.
Vous connaissez le mot lectrice ?
Ça veut dire lire. Lire, ça veut dire quand on lit un livre.
Être lectrice, waouh ! Alors... Pour moi, être lectrice, c'est être engagée. Le fait de lire une littérature féminine, c'est s'ouvrir à ce que les femmes peuvent penser, peuvent écrire, peuvent ressentir et réfléchir. Voilà, et c'est très bien.
La lectrice.
Celle qui lise, une série documentaire d'Hélène Goutani, réalisée par Anne Pérez. Épisode 1, lire un apprentissage.
Alors, où en sommes-nous aujourd'hui, mesdemoiselles ?
Répétez.
La lecture n'a pas été une évidence pour les femmes. Déchiffrer des lettres, écrire des mots, lire des phrases, ce savoir-faire nous a longtemps été refusé. Quelques-unes ont bien eu cette chance. Elles sont nées dans les bons cercles, dans les bonnes familles, dans la bonne société. Mais celles qui l'ont affirmé trop fort ont été moquées, les lectures des autres presque toujours contrôlées. Quelques années après la Révolution française, en 1801, un polémiste propose même une loi pour interdire tout bonnement l'éducation aux femmes. Sylvain Maréchal, ce passionné d'égalité sociale et fervent athéiste, entendait délivrer l'homme de toute servitude, tout en maintenant la femme dans son état d'innocence. Car c'est bien de la lecture que nous vient la compréhension de ce que nous sommes, de la construction de notre individualité, de cette conscience, de ce qui nous fait être au monde. Savoir lire, c'est accéder à un autre possible. Et cela nous prendra presque un siècle.
Bonjour.
Bonjour Isabelle.
Je suis Isabelle Matamoros, je suis historienne. Historienne indépendante, donc effectuant des recherches pour les particuliers, des conférences et également continuant mes propres recherches sur les femmes, la lecture, le savoir, l'émancipation.
Nous avons appris hier les 6 voyelles de l'alphabet. Lisons.
A, E, I, O, U, Y.
Le 19e siècle est un siècle vraiment de grandes révolutions pédagogiques. Jusqu'à la fin du 18e siècle, on apprend à lire le plus souvent dans les petites écoles ou auprès de gouvernantes ou de maîtres privés dans les milieux plus favorisés, en suivant une méthode épellative, une lettre après l'autre, à épeler chaque mot, puis ensuite à épeler des phrases, etc. Et au 19e siècle, va s'imposer progressivement ce que l'on appelle la méthode syllabique, qui est encore assez largement utilisée aujourd'hui, c'est la fameuse méthode du béaba. Pendant très longtemps, on considérait qu'il fallait apprendre à lire aux filles, mais d'une manière assez superficielle, c'est-à-dire que l'objectif, c'était quand même qu'elles puissent savoir décrypter leurs livres de messe. Et donc, on en reste à un apprentissage de la lecture assez superficielle, qui est essentiellement un apprentissage par ouï-dire. On va surtout répéter ce que le maître ou la maîtresse nous dit, et on ne va pas du tout faire attention à la compréhension du texte. Il ne suffit pas juste d'apprendre à déchiffrer des lettres, à savoir lire un texte comme ça en reconnaissant des syllabes et des mots. Savoir lire, ça veut surtout dire savoir comprendre un texte.
Qu'est-ce que vous avez appris d'autre, Rachel ?
O, E,
Amélie Lenormand, qui est issue d'un milieu de la petite bourgeoisie lyonnaise, raconte son apprentissage de la lecture dans une petite école de la région de Lyon. Donc on doit être autour des années 1810-1820. Et vraiment, elle décrit ce qui pourrait passer comme le stéréotype d'une leçon de lecture au début du 19e siècle, c'est-à-dire toutes les petites filles de différents milieux sociaux confondus, réunies dans la classe d'une institutrice unique, qui est une religieuse, et qui leur fait inlassablement répéter un texte. Et à la fin d'une année de cet apprentissage de la lecture, la petite Amélie se dit qu'elle sait lire. Et elle est invitée chez sa tante, qui elle a une instruction bien supérieure. Et donc sa tante lui demande de lui lire un texte. Et là, elle se met à répéter ce fameux texte, qui en plus était un texte religieux. Ce fameux texte qu'elle avait eu sous les yeux à l'école. Et là, elle se rend compte, en fait, justement, du décalage entre l'apprentissage par cœur et, là, la simple capacité de déchiffrement.
L'ennemi, c'est le diable. Mademoiselle,
qu'avez-vous retiré de vos réflexions ?
Rien de très agréable.
Parce que vous pensez que sont agréables les futilités auxquelles vous occupez votre existence ? La voie qui s'ouvre devant vous est pourtant droite comme une muraille. Un aveugle pourrait la suivre.
Lire en comprenant ce qu'on lit, c'est vivre. Alida de Savignac.
Les institutions laissent complètement à l'Église et aux familles le soin de s'occuper de l'éducation des filles. Il y a eu des tentatives sous la Révolution française, mais qui ont échoué. Et après, que ce soit Napoléon ou que ce soit les Bourbons quand ils remontent sur le trône en 1815, voilà, vraiment abandonnent l'instruction des filles à l'Église et aux familles. Et par conséquent, eh bien, ce sont, pour les filles du peuple, ce sont les congrégations religieuses qui vont ouvrir des petites écoles, charitables ou payantes dans certains cas, qui auront pour objectif de délivrer une instruction élémentaire aux filles, donc à savoir apprendre à lire, apprendre à écrire et apprendre à compter. Ou alors, dans les milieux plus aisés, la bourgeoisie et l'aristocratie, l'apprentissage de la lecture se fait pour l'essentiel à domicile, auprès de la mère, qui vraiment, dès le début du 19e siècle, est érigée en une sorte de dogme, de mère éducatrice, qui doit être capable de prendre en charge l'instruction de ses enfants. Donc, pendant des décennies, ce sont les églises et les familles qui ont pris en charge l'éducation des filles. Alors, certaines femmes que j'étudie développent un rapport très critique envers l'éducation qu'elles ont reçue, en dénonçant un peu la vacuité de cet enseignement, à la fois l'apprentissage par cœur, qu'il s'agisse de la lecture, mais aussi par exemple de l'histoire. Et elles dénoncent surtout l'emprise de l'Église catholique sur leur instruction. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, le poids des congrégations religieuses sera encore bien plus important sur l'instruction des filles, au point qu'on dira qu'elles sont élevées sur les genoux de l'Église. C'est une expression que l'on retrouve couramment. Et un certain nombre de femmes se mettent à développer un regard extrêmement critique sur l'éducation qu'elles ont reçue.
Je ne sais pas comment ce livre lui est tombé entre les mains. Une œuvre du diable, sans doute. Quel livre ? Un livre plein de blasphèmes. Il raconte des pratiques condamnées par l'Église. Des choses de l'amour, mais décrites en toute indécence. L'abbesse lui avait confisqué, mais j'ai vu qu'elle le cachait derrière le placard, et je l'ai repris à la demande de Victoire.
L'éducation des filles et des garçons se différencie autour de l'âge de raison. À 7 ans, traditionnellement, les enfants sont séparés. Les petites filles vont très rapidement commencer l'instruction religieuse, parce que l'un des objectifs, l'une des finalités de l'éducation des filles, c'est quand même qu'elles accomplissent leur première communion, aux alentours de 12 ans à peu près. Et bien souvent, on considère qu'au-delà de la première communion, l'instruction est finie. Donc il va y avoir, après 7-8 ans, des leçons d'instruction religieuse, d'histoire sainte, mais également de catéchisme. Elles vont pouvoir continuer le français, de la grammaire, un peu d'arithmétique, quelques notions de sciences naturelles, alors que les garçons vont avoir évidemment un programme beaucoup plus chargé, beaucoup plus dense, et surtout, les garçons vont, dans les milieux aisés, vont être envoyés au collège. Et ça, c'est une différence flagrante de trajectoire entre les filles et les garçons, c'est-à-dire que les filles restent à la maison, continuent cette éducation auprès de leurs parents, avec un maître privé, Parfois, elles vont être envoyées en pensionnat pour 1 ou 2 ans autour de la communion, tandis que les garçons, en fait, quittent bien souvent la famille à ce moment-là pour aller faire leurs humanités au collège. Dans certains cas, par exemple, je pense à Marie Dagout, la future historienne Daniel Stern et féministe, qui, pour sa fille Blandine, effectivement, insiste pour qu'elle apprenne le latin ou d'autres matières qui sont à l'époque dites viriles, parce qu'elles sont normalement réservées à l'éducation des garçons. George Sand également, de par son instruction, sera qualifiée de femme virile.
J'éprouve une extrême surprise que vous, ma mère, puissiez trouver mauvais que je m'instruisisse. Vous trouvez sans doute qu'il est pour une femme des occupations plus utiles et plus en rapport avec les soins intérieurs, qui sont les devoirs de son sexe. Je le crois, comme vous, ma mère. Et si jamais je suis mère de famille, je crois que mes journées seront plus employées aux soins du ménage qu'à l'étude de l'ostéologie. Mais à présent, il me reste tant de moments de loisirs que vous-même, j'en suis bien sûre, me blâmeriez de les perdre. Pourquoi faut-il qu'une femme soit ignorante ?
George Sand, correspondance.
En 1833, lors de la première grande réforme scolaire en France, les filles sont les grandes oubliées. C'est-à-dire que Guizot, un ministre de l'instruction publique, instaure l'obligation pour les communes de plus de 500 habitants d'ouvrir une école de garçons. Mais dans la loi, il n'y a absolument rien sur les écoles de filles. Alors, il est tout à fait probable, et c'est même certain, que dans bien des cas, des petites filles assistaient aux leçons des garçons. Il n'empêche que l'État ne prend en charge que plus tardivement cette instruction des filles. Une première incitation est lancée en 1836, mais surtout il faut attendre 1850 et la loi Falloux pour que les communes de plus de 800 habitants soient obligées d'ouvrir une école de filles. Donc là, on a à peu près une équivalence entre les filles et les garçons au regard de l'instruction primaire.
Mélina, c'est ça ?
Oui. Je m'appelle Mélina, j'ai 6 ans et on est ici à l'école.
Prochaine syllabe. Feu.
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 C'est trop dur, maîtresse.
Mais non, c'est pas trop dur. C'est le F, tu as raison, Maëlle. Et ensuite, ce qu'on a appris hier avec euro. Attention à ton, au sens de ton F. Regardez les lettres qui sont affichées. Oui, on arrête de crier maîtresse, on monte juste l'ardoise, c'est très bien.
On parle de liseuse dès le XVIIe, XVIIIe siècle, mais à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est que c'est des termes qui toujours connotent et la personne qui lit, et aussi soit un objet, un divan, un siège plus adapté pour la lecture, soit un costume spécial pour la lecture. Donc une sorte de robe de chambre, de robe d'intérieur pour avoir bien chaud quand on lit.
Vous n'avez pas mis votre jolie liseuse ?
Non, je la mets la nuit dans mon lit.
Lectrice, lui, est réservée aux seules femmes qui lisent. Il n'y a pas de meuble qui s'appelle une lectrice, je crois pas. Je m'appelle Marie Baudry, je suis enseignante à l'Université de Lorraine et j'ai travaillé sur l'image de la lectrice dans la littérature au 19e, 20e. J'imagine qu'on disait une femme qui lit. En tout cas, l'entrée dans le dictionnaire, surtout dans le dictionnaire de l'Académie française, ça ne signale pas l'entrée dans l'usage réel, quoi. Ça signale vraiment une reconnaissance par l'Académie française de ce qu'un usage s'est suffisamment établi pour qu'on finisse par accepter de le faire rentrer.
Lecteur se dit particulièrement de celui qui lit seul et des yeux quelque ouvrage. Et en ce sens, il n'est guère usité qu'au masculin. L'essentiel pour un écrivain est de plaire à son lecteur, à ses lecteurs. Cet ouvrage a peu de lecteurs, a beaucoup de lecteurs. Cet homme est un grand lecteur. Définition de l'Académie française, 1835.
Et donc le dictionnaire de l'Académie française, de toute façon, a toujours été très inquiet de la féminisation des substantifs, de tout type de substantifs. Donc effectivement, lectrice rentre tardivement dans le dictionnaire de l'Académie française, mais il y a pour autant des femmes qui lisent bien avant, quoi. Ça c'est sûr.
Il y avait dans un petit boudoir proche du salon, où l'on se tenait de préférence en automne, mais qu'on me laissait à moi seule l'été pour écrire mes devoirs, une armoire. Cette armoire renfermait, sur des tablettes, un assez grand nombre de livres en petit format très variés, fort joliment reliés. mais dont aucun n'avait été choisi en vue d'une bibliothèque de demoiselles. Quelque chose me disait qu'il devait m'être interdit. La première fois que je tournais la clé du placard, étant seule, dans la simple intention de regarder les titres des volumes, je fus prise de peur. Et aussitôt, me figurant entendre ouvrir la porte du boudoir, je refermai précipitamment l'armoire et je me rassis à ma table avec l'air d'écrire. Le jour suivant, je fus plus hardie. Je pris un volume, le plus petit, le plus joli. Je l'ouvris. Il avait une gravure en tête. C'était « Le diable amoureux de Cazotte ». Un nouveau bruit me fit fuir. Mais j'y revins. Personne ne se doutait de rien. Et de la sorte, je lus pendant toute une saison une infinité de romans. Marie Dagou, mes souvenirs.
Je suis Judith Liancan, je suis historienne, je suis directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et mon travail porte depuis bien longtemps déjà sur les usages sociaux de la littérature, c'est-à-dire non pas sur les textes littéraires eux-mêmes, mais sur ce que fait la littérature dans la vie sociale. Sous l'impulsion donc de Guizot, ministre de l'Instruction publique. Ça va prendre du temps, évidemment, mais on est dans une période d'expansion continue de l'alphabétisation, en fait, depuis la fin du XVIIIe siècle. Globalement, dans les villes, la plupart des gens savent lire. Ça ne veut pas dire qu'ils savent écrire, mais en tout cas, ils ont accès à l'imprimé. Donc, on est vraiment dans une période comme ça d'ouverture très grande du point de vue de la circulation de l'imprimé. Et jusqu'en 1835... Bon, après la tentative d'attentat contre le roi, on est aussi dans une période de relative liberté de la presse. Les entrepreneurs de presse savent qu'il y a un public à conquérir. C'est-à-dire qu'il y a des potentialités de conquête d'un lectorat. Le problème étant que ce lectorat n'a rien à se mettre sous la dent, si je puis dire. Donc, il y a des entrepreneurs de presse, le plus intéressant étant Émile de Girardin, qui se disent qu'il y a potentiellement un lectorat notamment féminin à conquérir et qui vont donc, pendant des années, inventer des formats, des objets en direction de ce public féminin. Alors ça va être des journaux de mode. Il va complètement renouveler le journal de mode en donnant notamment aux lectrices un contenu littéraire intéressant. Et puis ça va être, à partir de 1836, des quotidiens qui proposent de la fiction à lire, c'est-à-dire du roman feuilleton. Donc il y a énormément de littérature, d'histoire à lire, qui se mettent à circuler dans l'espace de la presse. L'autre manière d'accéder à la lecture, étant donné le fait principal que j'ai oublié de mentionner, est que le livre est très cher à acheter, sauf dans les milieux extrêmement aisés, on n'achète pas de livres. L'autre manière d'entrer en contact avec la lecture étant le cabinet de lecture, qui est donc une sorte de bibliothèque privée. Il y en a des dizaines dans une grande ville comme Paris, de tout niveau. Dans les quartiers populaires, c'est des toutes petites boutiques où on peut venir louer pour une journée un roman à lire ou des ouvrages pratiques, des classiques, voilà.
Un jour, j'eus la mortification extrême de trouver la clé de l'armoire ôtée. Privée de mes lectures, je n'en gardais que mieux dans ma mémoire les noms, les aventures romanesques que j'y avais entassées depuis 6 mois. Je ne rêvais plus que de ravisseurs, bergers fidèles, blancs palefrois. Je savais que désormais le parfait bonheur, c'était de voir à ses pieds un beau chevalier qui jurait d'aimer toute la vie. Marie Dagou, mes souvenirs.
Les premières lectures nous sont accessibles qu'à travers des textes autobiographiques, essentiellement des mémoires, des souvenirs, des autobiographies. Donc c'est vraiment un acte rétrospectif de se rappeler de ces premières lectures qui a beaucoup trait à la volonté de restituer sa trajectoire en tant qu'individu pour se comprendre en tant qu'adulte. Et on revient dans son enfance sur cet éveil intellectuel qui passe pour l'essentiel par la lecture. Donc c'est par ce filtre extrêmement important de l'écriture autobiographique que sont accessibles les lectures des enfants des siècles passés. Après, il y a d'autres sources qui nous permettent d'approcher les lectures adolescentes ou un peu plus tardives par un filtre bien moindre, même s'il y en a quand même un, à travers une écriture plus spontanée, plus proche de l'acte même d'écrire. Ce sont les journaux intimes et les correspondances. où là, effectivement, on va pouvoir un peu suivre au quotidien, presque, quels livres sont en train de lire les femmes.
Je m'en faisais souvent l'héroïne. Toutes les aventures que j'y avais puisées se retraçaient à ma mémoire. Je me les attribuais, en dépassant les limites, bien entendu, autant que mon ignorance du monde et mes petites passions à peine naissantes pouvaient aller au-delà. Et je marchais à tâtons dans les voies instinctives et mystérieuses du cœur humain, jusqu'à ce que, n'y voyant que du feu, je m'arrête, essoufflée et presque effrayée de ces efforts d'imagination que j'appelais des écarts monstrueux et que j'aurais été bien honteuse de raconter. Journal de Zélie Bulli.
Les femmes lisent pour l'essentiel chez elles. Enfin, en tout cas, elles doivent lire pour l'essentiel chez elles. Il est mal vu, au début du 19e siècle, qu'une femme lise surtout seule, en dehors de chez elle. Donc, on va avoir toute une masse de discours qui va chercher à expliquer, à délimiter, on va dire, le cadre et le contexte dans lequel doit se dérouler la lecture féminine. Donc, une femme doit lire chez elle. Elle ne doit pas lire seule, surtout les jeunes filles. Les jeunes filles doivent lire soit en présence de leurs parents, soit en présence de leur confesseur ou directeur de conscience, ou de leur institutrice. Pourquoi ? Parce qu'on a peur, finalement, de l'appropriation qu'elles pourraient faire du texte si elles étaient seules. Et on préconise également la lecture à haute voix, encore beaucoup, qui doit à la fois développer le souffle des jeunes filles, leur permettre de poser leur voix, etc., mais aussi qu'il y a un moyen, véritablement, de contrôler ce que les jeunes filles lisent. Puisque finalement, en lisant à haute voix, on est dans une interaction avec l'autre, on n'est plus du tout dans une lecture intérieure que permet la lecture silencieuse.
La dernière année de mon séjour chez mon père fut pénible. Ma mère, lasse de mes refus de mariage, prit de l'humeur contre moi. Elle me défendit d'apporter aucun livre. Une révolte cachée fut ma réponse. Par une matinée de printemps, j'acquis l'Histoire universelle de Ségur, 25 volumes. Je les entrais à deux reprises dans mon chapeau, dans mon parapluie fermé et sous mes bras que je tenais serrés contre mon corps. Ma frayeur était grande. J'aimais beaucoup ma mère, mais je la craignais terriblement. Elle ne s'aperçut de rien avant le coucher du soleil. Mes chers petits volumes s'étalaient dans le tiroir d'une vaste commode. Un jour, je me retrouvai mariée. Antoinette Dupin, Mémoire.
Dans la bourgeoisie, au début du 19e siècle, le bureau en tant que pièce, ou la bibliothèque en tant que pièce, est encore assez rare. C'est vraiment dans les milieux très aisés qu'on va trouver une pièce distincte à cet usage. Quand il y en a un, il est presque toujours réservé au père de famille. Et beaucoup de femmes racontent que, finalement, dans leur enfance, elles voyaient soit leur père s'isoler dans ce bureau, soit qu'elles savaient, finalement, qu'elles n'y avaient pas, elles, accès. Donc, les femmes lisent le plus souvent au salon. C'est là aussi où elles écrivent le plus souvent, que ce soit leur correspondance, voire leurs journaux intimes. Donc, enfin, quand je dis qu'il n'y a pas grand-chose d'intime dans le journal, c'est qu'aussi, bien souvent, il est écrit au vu et au su de tout le monde, de toute la famille réunie dans le salon. Donc, les femmes doivent de la même façon lire dans le groupe de la famille ou des amis qui sont de passage. Cela, toujours pour empêcher, finalement, une appropriation trop intime, trop personnelle de la lecture. Et rares sont, finalement, les jeunes filles autorisées à lire seules dans leur chambre. L'une des lectrices sur lesquelles j'ai travaillé, Amélie Weiler, qui est une strasbourgeoise, qui écrit son journal intime dans les années, au tout début des années 1840, elle a une vingtaine d'années, et elle regarde avec une envie démesurée l'une de ses amies qui a réussi à lire seule le soir tard dans sa chambre. Parce que elle, cela lui semble complètement impossible. Et même peut-être qu'elle n'en aurait pas les moyens matériels, en fait. Bah, pour lire, il faut un éclairage, alors le plus souvent la bougie, etc. Mais bon, il y a aussi tout ce contexte matériel qu'il faut bien prendre en compte. C'est comme pour écrire. Pour écrire, il faut un bureau, il faut une plume. S'il n'y a pas ça dans la chambre, on ne peut pas écrire dans sa chambre seule, à l'abri des regards.
J'espère reprendre bientôt le génie du christianisme, le paradis perdu et les pensées de Pascal que j'ai commencé et laissé après dans un coin obscur de mon cabinet de toilette. Tous les romans du monde ne valent pas une de leurs pages. Et cependant, je l'avoue à ma tante, je me laisserai facilement entraîner à ces lectures dangereuses, frivoles, qui ne me font voir le monde qu'à travers un prisme menteur et égare l'imagination par les récits faux et exagérés de sentiments passionnés qui n'existent plus dans ce siècle positif et qui peut-être n'ont jamais existé que dans les rêves des romanciers. Journal de Zélie Bully.
Bah, c'est politique au sens où déjà c'est le contraire de rester chez soi, lire.
Virginie Despentes, écrivaine.
C'est le contraire d'être enfermé dans sa domesticité, quoi. C'est vraiment être en connexion, non seulement avec le monde, dans le temps, avec n'importe quelle époque, avec n'importe quel pays. Donc c'est vraiment le contraire de, c'est le contraire de la domesticité, ouais, lire. Moi, je me vois avant tout aussi comme une lectrice, parce que j'ai toujours été lectrice et que ça a été mon lien, mes meilleurs amis, quoi. Souvent, ça a été dans les livres ou les soutiens les plus. Mais aussi la capacité de savoir qu'il y avait quelque chose au-delà du monde dans lequel j'ai grandi. Et encore aujourd'hui, le fait de. C'est une façon de ne pas se sentir seul dans ses pensées ou dans son quotidien. Et c'est complètement low-tech. Ça veut dire il faut de la lumière, quoi, en gros, pour pouvoir lire. C'est pas un investissement d'argent, c'est pas un investissement de technologie lourde, c'est pas. Et pourtant, ça déploie un truc énorme.
Attendez, je vais faire 1, 2, 3 et je vais dire la lectrice, lectrice.
La lectrice, lectrice.
C'était Celles qui lisent, épisode 1. Lire, un apprentissage. Avec Isabelle Matamoros, Marie Baudry, Dulcina, Mélina, Judith Lioncan et Virginie Despentes. Merci à Cecilia Johnson-Ferguson ainsi qu'aux équipes de l'école élémentaire d'Elbolsheim pour leur accueil. Lecture de Marjorie Delarquier, Pascaline Bonnet, Claire Pansignon, Anaïs Isebaert et Sarah Chaumette. Prise de son Antonine Thomasson, Eric Audra, Florent Layani. Mixage Éric Boisset. Documentation Alice Signoret, Antoine Villoz. Archivina Mylène Touchet. Chargée de programme Marie-Vonna Bolivier et Anaï Morales. Coordination Emmanuel Laurentin. Celles qui lisent, une série documentaire d'Hélène Goutani et Anne Pérez.